C'est d'abord les deux textes utilisés par la Sainte Église pour cette fête de Saint-Étienne. L'épître est tirée des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne, plein de grâce et de force, faisait de grands miracles et de grands prodiges parmi le peuple. Mais quelques membres de la synagogue, dites des affranchis, des Cyrénéens, des Alexandrins, de ceux qui étaient de Cilicie et d'Asie, se levèrent contre Étienne et discutaient avec lui. Ils ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit qui parlait en lui. Entendant ces paroles, ils frémissaient de rage dans leur cœur et grinçaient des dents contre lui. Mais lui, rempli qu'il était de l'Esprit Saint, leva les yeux au ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu et lui dit : Voici que je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alors, poussant de grands cris, ils se bouchèrent les oreilles et se précipitèrent tous ensemble sur lui. Et l'ayant entraîné hors de la ville, ils le lapidaient. Et les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Tandis qu'on le lapidait, Étienne priait et disait : Seigneur Jésus, recevez mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il cria à pleine voix : Seigneur, ne leur imputez pas ce péché. Et après avoir prononcé ces paroles, il s'endormit dans le Seigneur. Le Saint-Évangile selon saint Matthieu, on se lève pour l'Évangile. En ce temps-là, Jésus dit aux scribes et aux pharisiens : Voilà, voici que je vous envoie des prophètes, des sages et des docteurs, et vous tuerez, crucifierez les uns, vous flagellerez les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent qui a été répandu sur la terre depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez tué entre le temple et l'autel. En vérité, je vous le dis, toutes ces choses retomberont sur cette génération. Jérusalem, qui tue les prophètes et les lapides, et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses petits sous ses ailes et tu ne l'as pas voulu. Voici que votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, je voudrais continuer un petit peu ce que j'ai commencé de vous expliquer hier à cause de la grande richesse de ce que disent les pères de l'Église sur cette période de Noël. Nous sommes maintenant rentrés dans la grotte, nous sommes au pied de la crèche, nous contemplons notre Seigneur Jésus-Christ, nous l'adorons, parce qu'il est véritablement Dieu et véritablement homme. Contemplons aussi la Sainte Vierge et Saint Joseph en adoration. Et il faut maintenant penser à ce que nous devons dire, à ce que nous devons faire. En fait, notre Seigneur, il attend un certain nombre de choses de nous. Et en fonction de ce que nous allons lui donner, il va nous rendre certaines choses. C'est du donnant-donnant. Si je donne certains cadeaux à notre Seigneur Jésus-Christ, il va m'en donner aussi. Et quel cadeau notre Seigneur Jésus-Christ attend-il de moi ? Il attend trois cadeaux : l'or, l'encens et la myrrhe. Vous allez me dire : mais monsieur l'abbé, ça c'est les cadeaux des rois mages. Moi je ne suis pas un roi mage, donc j'ai ni or, ni encens, ni myrrhe. Alors les pères vous rassurent en vous expliquant justement le symbole de ces choses. Nous devons tous, moi le premier, offrir à notre Seigneur Jésus-Christ l'or, l'encens et la myrrhe. Et dans la mesure seulement où nous acceptons de donner à notre Seigneur Jésus-Christ ses dons, lui ouvrira ses trésors et nous donnera d'autres dons qui correspondent à ceux que nous lui avons donnés. Le premier des dons que nous devons donner à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le don de l'or. Pourquoi ? Parce que Dieu demande, pour ouvrir ses trésors de ses grâces, que nous le reconnaissions comme notre roi. Et pas simplement comme le roi de la moitié ou les trois quarts de notre âme. C'est tout ou rien. Il faut donc accepter l'intégralité de la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ et le reconnaître en toute chose notre roi, le roi de nos intelligences, le roi de nos cœurs, le roi de nos volontés, le roi de notre irascible, le roi du concupiscible, le roi de toutes les puissances de notre âme. Si je dis au bon Dieu, écoutez, je vous reconnais comme roi sur tout sauf cette petite partie de mon âme, ça c'est pour moi. Là-dessus, vous ne mettez pas votre nez là-dedans. Alors à ce moment-là, ça veut dire qu'on ne le reconnaît pas comme roi. Donc, dans la mesure où je reconnais notre Seigneur Jésus-Christ comme roi, d'abord parce qu'il est créateur, évidemment, c'est moindre des choses, puisqu'il nous a créés, que nous le reconnaissions comme roi. Il est aussi notre rédempteur, il nous a rachetés. Deuxième raison pour laquelle il a droit d'être connu comme roi. Dans cette mesure, le bon Dieu va, à ce moment-là, nous donner un certain nombre de grâces qui vont dépendre directement de cet or qu'il veut d'abord recevoir de nous. Et les pères de l'Église expliquent très bien que cet or que nous donnons à notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous le reconnaissons comme roi, va ouvrir les portes du don de sagesse. Donc l'or correspond pour notre Seigneur Jésus-Christ à son titre de roi et pour nous à la sagesse, au don de sagesse. Dieu sait ce que nous avons besoin aujourd'hui. Pourquoi le don de sagesse est tellement important? Parce que le don de sagesse est un don du Saint-Esprit par lequel, nous comprenons où sont les choses importantes. Aujourd'hui, c'est capital. Qu'est-ce que fait le monde moderne? Le monde moderne va nous couvrir de choses secondaires pour que nous n'ayons plus de place pour les choses importantes. Le monde va travailler pour nous faire croire que ces choses secondaires, ces babioles pour enfants que le monde veut nous donner, sont importantes. Et donc le don de sagesse va nous aider à rééquilibrer les choses pour comprendre où sont les choses les plus importantes. Et qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Pourquoi est-ce que je suis sur la terre? Pourquoi est-ce que le bon Dieu me place 70, 80, 90 ou 100 ans sur la terre? Il y a une raison pour ça. Et c'est le don de sagesse qui va nous l'expliquer, cette raison. Je suis sur la terre d'abord et avant toute chose pour sauver mon âme. C'est pour ça que je suis sur la terre. Le bon Dieu ne me met pas sur la terre pour faire que je fasse ce que je veux. En fait, un catholique ne fait jamais ce qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'il y a un bon Dieu qui, étant notre roi, nous a donné une règle, un mode d'emploi, évidemment, pour l'usage de notre intelligence, de notre volonté, des puissances de notre âme. Et donc, ce don de sagesse va nous aider à comprendre où sont les choses importantes. Et si je n'ai pas le don de sagesse, qu'est-ce qui va se passer? Je vais aimer et être attiré par les choses secondaires. Or, le don de sagesse dépend directement de l'état de grâce. Donc, qu'est-ce que fait le démon? Il nous met dans le péché mortel pour que nous perdions le don de sagesse et que nous soyons donc incapables de comprendre où sont les choses importantes. Un deuxième détail, qui n'en est pas un, mais qui explique bien des choses aussi, c'est que don de sagesse, c'est un deuxième but. C'est nous faire admirer les choses belles. Peut-être que vous avez posé la question, comment se fait-il que le monde moderne aime tant les choses laides? Et plus les choses sont laides, plus le monde moderne les aime. Il y a une raison pour cela. La raison, c'est que l'amour du beau dépend directement du don de sagesse. Donc si je ne suis pas en état de grâce, je n'ai pas en moi, évidemment, l'amour du bon Dieu, j'ai perdu le don de sagesse, donc je suis incapable de comprendre où sont les choses belles, je suis incapable de comprendre où sont les choses importantes, et je vais m'attacher aux trivialités du monde moderne. À ce moment, évidemment, notre Seigneur Jésus-Christ n'a plus rien à faire dans notre âme, j'ai même plus de place pour lui. Parce que notre âme est encombrée, on le voit très bien aujourd'hui, avec la civilisation des écrans, les jeunes surtout sont constamment dans les écrans, il n'y a plus de place pour notre Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième don que nous devons recevoir de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous devons donner à notre Seigneur Jésus-Christ plus exactement, c'est le don de l'encens. Pourquoi l'encens? Et les pères de l'Église expliquent que par le don de l'encens, quand je donne l'encens à notre Seigneur Jésus-Christ, je le reconnais comme Dieu. On utilise l'encens comme un symbole d'adoration. C'est pour ça qu'on utilise, pour les messes chantées avec encens, on utilise l'encens comme la fumée de l'encens qui s'élève depuis le charbon qui brûle, avec l'encens sur le charbon, représente justement cette prière d'adoration. Et donc l'encens que nous donnons à notre Seigneur Jésus-Christ fait que nous le reconnaissons comme notre Dieu. Encore une fois, notre Seigneur Jésus-Christ étant Dieu, veut être Dieu de toutes les puissances de notre âme. Et en contrepartie, si je reconnais notre Seigneur Jésus-Christ comme Dieu et que je lui donne l'encens, qu'est-ce qui se passe? Le bon Dieu va me donner le don de piété. Est-ce que vous pouvez avoir la piété par vous-même? Impossible, c'est un don. Donc il faut donner l'encens à notre Seigneur Jésus-Christ, et du coup il me donne la piété par lequel je vais aimer prier. Il y a peu de gens qui ont ce don. La plupart des gens, piété, c'est une espèce de triste nécessité. Il faut que je dise mon chapelet tous les jours. Il faut assister à la messe. Quel déven, j'aurais préféré rester jusqu'à 2 heures de l'après-midi à mon lit. Non, le don de piété nous donne l'amour de la prière. L'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour de sa croix. Enfin, la troisième chose, troisième don qu'il nous faut donner à notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il attend de nous, c'est la mire. Et le Père explique pourquoi la mire. Parce que par la mire, je reconnais notre Seigneur Jésus-Christ comme roi, je reconnais notre Seigneur Jésus-Christ comme Dieu, mais cette fois-ci, par la mire, je le reconnais comme l'homme des douleurs. C'est le titre qu'il s'est donné lui-même, le Fils de l'homme. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas simplement Dieu, il est aussi homme. Je vous l'ai expliqué hier, il est homme pour pouvoir mourir. Donc, en donnant à notre Seigneur Jésus-Christ la mire, je le reconnais comme homme de douleur, et donc, je vais recevoir en contrepartie de lui, encore une fois, c'est du donnant-donnant, je vais recevoir de lui en contrepartie la vertu de pénitence. Vous voyez comme toutes ces vertus sont tellement importantes. Donc la vertu d'adoration, la vertu de prière, la vertu de don de sagesse, et ici la vertu de pénitence. Celui qui fait pénitence se sauve. Celui qui ne fait pas pénitence ne se sauve pas. C'est aussi simple que cela. Personne ne peut se sauver sans faire pénitence. C'est impossible. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous donne l'exemple. Vous voyez comme notre Seigneur Jésus-Christ, il est là, il est dans la crèche, mais il dit attention, il est homme et il est roi. Et il attend de chacun de nous l'or, l'encens, la myrrhe. On verra après avec la fête de l'Épiphanie qui va bientôt arriver, le 6 janvier, qu'il y a des petits malins qui veulent bien donner une partie, mais pas tout. Bon, l'encens, oui, ça va, la myrrhe aussi, l'or, pas question. Ça va pas. Il y en a qui disent l'or, je veux bien, l'encens, je veux bien, mais la myrrhe, non, ça je garde. Donc, il faut apprendre à tout donner. Et c'est dans la mesure où je donne tout à notre Seigneur Jésus-Christ qu'il ouvre les trésors de ses grâces et nous donne les grâces dont nous avons besoin. Et c'est l'or, l'encens et la myrrhe qui vont donner donc ces dons de sagesse, cette vertu de piété, cette vertu de pénitence. Et c'est ces dons-là qui vont nous permettre de commencer le pèlerinage dont je vous ai parlé hier, de ces trois étapes. La crèche, la croix, le paradis. Pour entreprendre ce pèlerinage qui va nous mener de la crèche jusqu'au sommet du calvaire, il faut monter pour aller là-haut, et ensuite aller jusqu'au paradis, il faut des forces. Ces forces, elles ne viennent pas de nous, elles viennent de Dieu. Et Dieu nous donnera ces forces dans la mesure où j'accepte de donner l'or, l'encens et la myrrhe. Alors voyons un petit peu maintenant, justement, cette deuxième partie qui est aussi tellement importante. Quels sont les dons que notre Seigneur Jésus-Christ va nous donner, si vous voulez, au fur et à mesure de ces trois étapes. La première étape de notre vie spirituelle, je vous l'ai expliqué hier, c'est l'étape de la crèche. Et quelle est la vertu fondamentale que je vais trouver dans la crèche? C'est la vertu théologale de foi. Je vois un enfant emmailloté de l'ange, déposé par la Très Sainte Vierge Marie sur la crèche, et je sais par ma foi catholique, cet enfant est Dieu. Cet enfant est le Fils de Dieu, cet enfant est la deuxième personne de la Très Sainte Trinité. Et donc, si je reconnais cela, si je reconnais notre Seigneur Jésus-Christ comme Dieu dans la crèche, à ce moment-là, je vais avoir cet esprit de foi. La foi catholique dont on a tellement besoin aujourd'hui. En face de nous, on a un rouleau compresseur. Dans le gouvernement actuel, c'est très clair qu'il ne cherche qu'une seule chose, détruire la foi des catholiques, par tous les moyens. Surtout par la corruption morale. Et si j'ai cette foi, ce don de foi, cette vertu théologale de foi, à ce moment-là, j'aurai l'esprit de pauvreté. Et il faut l'esprit de pauvreté pour lutter contre la concupiscence des yeux. Donc la foi va me donner la force de lutter contre la concupiscence des yeux, ce désir que j'ai de tout posséder, de tout avoir. Vous voyez ce qui se passe dans les supermarchés aujourd'hui? Vous allez rentrer dans un supermarché pour acheter une brosse à dents, vous sortez avec trois caddies de choses dont vous n'avez pas besoin. C'est ça la concupiscence des yeux. Et donc, il faut avoir cet esprit de pauvreté, et cet esprit de pauvreté est associé au don, non pas au don, à la vertu théologale de foi. Et la vertu théologale de foi va nous amener, évidemment, au sacrement de baptême. Est-ce qu'on peut baptiser quelqu'un qui a pas encore quelqu'un qui refuse d'ouvrir son cœur à la foi? C'est absolument impossible. Donc, à la crainte, je vais trouver la foi, l'esprit de pauvreté pour lutter contre la concupiscence des yeux et le baptême. À ce moment, je peux commencer mon pèlerinage pour monter au sommet du calvaire, pour monter au sommet du Golgotha. Et là, qu'est-ce que je vais recevoir? Au sommet du Golgotha, je vais avoir une deuxième vertu théologale qui va m'attendre, la vertu théologale d'espérance, par laquelle je n'oublie pas que cet homme qui meurt pour moi sur la croix, crucifié entre deux bouts de bois, en fait, cet homme est Dieu, qu'il a la vision béatifique. Et donc, levant les yeux vers le Sacré-Cœur, je lève les yeux vers le ciel, et cela va me donner la force de continuer mon pèlerinage pour atteindre le paradis. Et cette vertu théologale d'espérance, cette fois-ci, va m'amener à la lutte contre la concupiscence de la chair, deuxième concupiscence, par la vertu de chasteté. C'est au pied de la croix qu'on obtient la vertu de chasteté. C'est au pied de la croix qu'on obtient les forces pour lutter contre toutes les tentations d'impureté. Et cela va, pour ça qu'on peut lier cette vertu d'espérance, cette vertu théologale d'espérance, au sacrement de confession, au sacrement de pénitence. Donc la foi est liée au baptême, l'espérance va être liée à la confession. C'est au pied de la croix qu'on reçoit toutes les grâces pour regretter ses péchés. Et ceci va nous permettre de donner davantage de force pour continuer et monter, cette fois-ci, jusqu'au paradis, sa troisième étape. Rappelez-vous, hier j'ai expliqué qu'on ne pouvait pas se mettre sur le chemin du paradis sans passer par la croix, c'est absolument impossible. Mais avec l'arrivée au paradis, la méditation sur le paradis qu'on n'obtient pas tout de suite, hein, c'est saint Thomas qui explique bien que la fin est première dans l'intention mais dernière dans l'exécution. Le paradis c'est pour la fin, après, à la fin. Eh bien, au paradis, quelle est la vertu théologale qui va nous être donnée par notre Seigneur Jésus-Christ dans cette contemplation du paradis? Évidemment, c'est la vertu théologale de charité. Donc on reprend, la crèche donne la foi, le calvaire l'espérance, le paradis la charité. La contemplation des mystères du paradis va permettre justement à ce moment-là les luttes contre la troisième concupiscence, l'orgueil. Concupiscence des yeux, concupiscence de la chair, cette fois-ci l'orgueil. Et le sacrement qui est associé à ce troisième degré, à ce troisième but, si vous voulez, dans notre vie, l'arrivée au paradis, c'est évidemment le sacrement de la Sainte Messe, la Sainte Eucharistie. Quand je reçois, je vais communier, je reçois notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, celui qui est roi au ciel, celui qui devait être roi ici-bas aussi. C'est lui qui est le roi des rois. Et vous voyez comment toutes ces choses-là sont magnifiquement expliquées par les pères de l'Église pour nous faire comprendre que nous avons absolument besoin du bon Dieu. Qu'est-ce que nous prêche le monde moderne, au contraire? Le monde moderne veut tout centrer sur l'homme. L'homme, l'homme, l'homme. L'homme qui devient Dieu, l'homme qui est suffisamment fort pour tout faire par lui-même. Nous sommes comme un petit enfant, on ne peut pas se relever sans l'aide de bon Dieu. Rappelez-vous l'image des pères de l'Église que j'ai expliquée hier, de l'enfant Jésus qui est emmailloté de l'ange, pour bien montrer qu'il dépend totalement de notre Sainte Vierge Marie, pourtant il est Dieu. Oh bien, chers frères, demandons la compréhension de toutes ces grandes, grandes vérités. Vous voyez, c'est tellement important pour nous, prêtres, d'expliquer justement à nos fidèles ces vérités qui ne viennent pas de nous. Le prêtre n'a en aucun cas, jamais le droit d'avoir des idées personnelles sur la foi, l'espérance et la charité. Le rôle du prêtre, c'est de transmettre quelque chose qui ne lui appartient pas. Monseigneur Lefebvre a une image que j'aimais beaucoup, il nous disait, c'est comme le facteur qui donne une lettre à quelqu'un, qui ouvre la lettre, qui lit la lettre et qui transmet cette lettre aux générations futures. Le prêtre n'est pas quelqu'un qui a le droit d'interpréter comme il veut la Sainte Écriture. Pas du tout, ça c'est le protestantisme. C'est la base du protestantisme, c'est libre examen. Libre examen c'est quoi? Je ne servirai pas. L'Église a enseigné pendant 20 siècles telle et telle chose, mais moi j'ai décidé de faire les choses différemment. C'est pas ça la foi catholique. La foi catholique, c'est justement reconnaître que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, reconnaître que notre Seigneur Jésus-Christ est l'homme des douleurs, reconnaître que notre Seigneur Jésus-Christ est le roi des rois. Et que donc moi, en tant que petite créature de rien du tout, je dois simplement me mettre à genoux devant notre Seigneur Jésus-Christ. Et du coup, il va me donner la foi, l'espérance, la charité, tous ces dons du Saint-Esprit, toutes ces grandes vertus théologales pour me permettre justement de progresser, d'aller vers le ciel. Donc, il sait ce qu'il fait, vous savez. Il sait très bien ce qu'il fait. Il va tout faire pour nous décourager. C'est la prophétie de Saint Matthieu qui est de plus en plus valable aujourd'hui. Qu'est-ce qui va nous arriver? Eh bien, je vous envoie, dit Saint Matthieu, des prophètes, des sages et des docteurs. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous flagellerez les autres dans vos synagogues et vous, persécuterez de ville en ville afin que retombe sur vous tout le sang innocent. Est-ce qu'il va nous arriver, mes chers frères? Nous sommes dans un monde qui ne cherche qu'une seule chose, détruire Dieu. Rappelez-vous, je vous l'ai déjà souvent cité, Elena Blavatsky ou Annie Besant, les fondatrices de la société théosophique, autour des années 1850-1860 à New York, qui écrivait noir sur blanc, nous allons rendre la terre tellement inhospitalière à Dieu que celui-ci écœuré s'en aille. Et elle disait noir sur blanc, nous voulons arracher Dieu du cœur des enfants. Arracher Dieu du cœur des enfants. Et nous, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons au contraire que notre Seigneur Jésus-Christ soit le roi de nos pensées, soit le roi de notre cœur, le roi de nos volontés, le roi de tout ce que nous faisons. Donc loin de nous, mes bien chers frères, l'esprit d'indépendance. Loin de nous cet esprit qui a été très fermement condamné par le pape Saint Pie X, l'esprit de curiosité, vouloir toujours faire des choses nouvelles, toujours vouloir faire des choses de façon différente. L'Église est une. L'Église est éternelle. Notre Seigneur Jésus-Christ ne change pas. Une fois qu'on a compris ces choses-là, mes bien chers frères, je vous assure que tout retombe, on arrive tous à retomber à ce moment-là sur nos pieds. Et dès que l'homme veut se couper de Dieu, dès que l'homme veut se couper de l'influence de Dieu, c'est une catastrophe qui arrive. Une expression que j'aime bien, certains disent, on ne peut pas vivre sans idole. C'est-à-dire, on ne peut pas vivre sans un Dieu. Ou on adore le vrai Dieu, on adore les faux dieux. On n'a pas le choix. On ne peut pas dire, je veux être dirigé par personne. Je refuse Dieu, je refuse tout supérieur au-dessus de moi. Vous refusez Dieu, c'est quelqu'un qui va venir prendre sa place. Et c'est quelqu'un qui va venir prendre la place du bon Dieu, c'est le démon. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous croyez que le démon fait tout son travail, ce travail actuellement pour détruire la famille, détruire la femme, détruire l'autorité des pères de famille, détruire la loi naturelle et pousser dans tous ses péchés contre nature. Parce qu'il sait qu'il faut enfoncer la tête dans la boue pour que les hommes ne puissent plus ou même penser à relever la tête. Alors nous, au contraire, nous sommes catholiques. Nous avons la foi catholique. Pourquoi est-ce que nous l'avons reçue, mes bien chers frères, cette foi catholique? Pourquoi est-ce que vous et moi, nous avons reçu cette grâce extraordinaire d'avoir conservé la foi catholique, alors qu'autour de nous, les gens perdent la foi partout? Pourquoi? Ah, monsieur l'abbé, c'est que moi, je suis meilleur que les autres. Tu parles. Parce que le bon Dieu nous aime d'un amour tout particulier. Et pourquoi est-ce que le bon Dieu m'aime d'un amour tout particulier? Posez-vous la question après votre communion d'aujourd'hui. Posez cette question, bon Dieu, mon Dieu, pourquoi vous m'aimez comme ça? C'est quoi cette folie? Et notre Seigneur Jésus-Christ, c'est au moment où il descend sur l'autel, lorsque le prêtre élève bien haut la Sainte Hostie, le calice, c'est là où il faut poser la question. Mon Dieu, merci de cet amour particulier que vous me donnez, que vous avez pour moi. Mais n'oubliez pas que puisque le bon Dieu nous a donné un amour tout particulier, nous manifeste un amour tout particulier, ça veut dire quoi? C'est du donnant-donnant, n'oubliez pas ce que j'explique au début de ce sermon. Le bon Dieu m'aime d'une façon toute particulière, mais il exige de moi plus de choses, hein. Le jour où vous et moi, on va mourir, le bon Dieu va vous poser des questions en disant « Attention, toi, je t'ai donné beaucoup. » Donc, tu dois donner beaucoup. Le pauvre gars qui passe devant Dieu, qui n'a jamais rien reçu, bon, le bon Dieu ne posera sans doute pas les mêmes questions à ces personnes-là parce qu'ils ont beaucoup moins reçu. Ah, mais bien, chers frères, passons encore une fois par la très sainte Vierge Marie. N'oublions pas que la première personne que nous rencontrons lorsque nous pénétrons dans la crèche, dans la grotte de Bethléem, c'est la très sainte Vierge Marie. Elle est là, elle est au pied, elle est à côté de son Fils. C'est elle qui nous amène à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc demandons-lui toutes les grâces. Elle ne peut pas faire ces grâces. Ces grâces ne viennent pas de la Sainte Vierge. Elles viennent du bon Dieu. Mais le bon Dieu passe par la très sainte Vierge Marie parce qu'il a voulu passer par elle pour venir à nous. Donc demandons-lui toutes les grâces dont nous avons besoin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.